BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse avec Guillaume Sommerer.
À vos côtés, on vous accompagne en direct jusqu'à 18h tout au long de cet après-midi boursière, au rythme des marchés, des valeurs à ne pas rater. Marks & Spencer a publié ses résultats. Le titre, en ce moment, est en progression. En revanche, le secteur auto est sous pression parce que la chambre de commerce chinoise au sein de l'Union européenne fait planer l'idée d'une possible hausse des taxes à l'import en Chine sur les véhicules puissants en provenance d'Europe, peut-être les véhicules allemands notamment. Le secteur automobile est donc sous pression. On va en parler avec nos experts, mais d'abord, il est 9h30 à New York, c'est l'ouverture de Wall Street. L'avenir se lit dans le regard que portent sur lui les marchés américains et le regard de John Plassard, c'est USA Today. Bonjour John, depuis au bureau de Mirabeau.
Bonjour Guillaume.
Ravi de vous retrouver. Le regard d'Aude Kersulec aussi, depuis la tour Euronext, en direct, la salle de contrôle des marchés pan-européens. Bonjour Aude, ravi de vous retrouver. Comment Wall Street se réveille-t-il ?
Eh bien, on est un petit peu plus déprimé qu'hier. Hier, on avait fini sur une légère hausse. On ouvre dans le rouge, en tout cas pour le S&P et le Dow Jones. Une toute petite baisse, hein, moins 0,1% pour le Dow Jones à 39 824 points. Et le S&P qui baisse de 0,07%, 5 317 points. Le Nasdaq, lui, eh bien, il est légèrement dans le vert, hein, plus 0,08% à 16 844 points. Alors qu'évidemment, c'est le grand jour pour Nvidia, qui ouvre pour le moment en hausse de 0,9%, donc avant ses résultats ce soir après clôture.
Effectivement, les résultats d'Nvidia que tout le monde va surveiller très très près. On est à quelques heures maintenant, ce sera précisément dans 6h49. Ce sera 22h20 ce soir, Nvidia. Est-ce que vous sentez, John, qu'Nvidia pourrait à nouveau, comme le trimestre précédent, faire une forme d'effet blast sur les marchés mondiaux avec cette publication tout à l'heure ?
Bah écoutez, oui, tout le monde l'attend, bien évidemment. Personne ne sait comment se positionner. Mais vous savez, Guillaume, il y a trois choses à regarder pour les résultats ce soir de Nvidia. La première chose, c'est le bénéfice net. Tenez-vous bien que le bénéfice net devrait être de 12,91 milliards, mais il y a exactement un an, au même trimestre, on était à 2,04 milliards. Donc on passerait de 2 milliards à 12,90 milliards, donc c'est énorme. La deuxième chose, c'est la marge brute. Tenez-vous bien, Guillaume, on attend une marge brute de plus de 76%. 76, c'est énorme. Et la troisième chose qu'on regardera de très près, c'est qu'en mars, Nvidia nous avait annoncé une nouvelle plateforme assez intrigante qui s'appelle Blackwell. On n'a pas eu beaucoup d'informations, mais qui a évidemment trait à l'intelligence artificielle. Eh bien, on regardera si on a plus de détails là-dessus. Donc, les choses à regarder, le bénéfice net, les marges brutes, et Blackwell, et bien évidemment, toute la communauté de l'intelligence artificielle qui va répondre aux résultats ce soir de Nvidia.
Attendant, j'avais éteint mon micro et c'est de ma faute. En attendant, Nvidia est en progression. Donc sur le marché américain, après 3 minutes de cotation, progresse un petit peu à nouveau. Et on verra si à l'occasion justement de cette publication, les perspectives qui seront annoncées, le titre parvient à franchir la barre des 1000 dollars. Il y a cette espèce de chiffre rond là qui reste assez proche et peut-être accessible sur Nvidia, les 1000 dollars par action. Ce sera à surveiller bien sûr. Puis demain, on en parlera beaucoup, bien évidemment, pour voir comment Wall Street réagit en direct. Il y a une valeur qui a publié tout à l'heure. Alors on n'est pas du tout dans l'univers de l'IA en l'occurrence, mais plus dans la grande distribution plus traditionnelle. Le titre Tarkett aujourd'hui à surveiller.
Oui, et les attentes sont manquées et la sanction est en train de se confirmer parce que déjà, avant bourse, ça dégringolait pas mal. C'est moins 9% en ce moment pour le titre Target, alors que la direction mentionne une pression sur le portefeuille du consommateur. Alors, John, finalement, est-ce que les difficultés de ce distributeur peuvent susciter des inquiétudes plus générales sur la santé des consommateurs aussi aux États-Unis ?
Oui, tout à fait. D'abord, il faut rappeler que c'est la plus forte chute en bourse depuis près de 2 ans, hein, sur une journée. Alors, on verra comment on va clôturer. Mais évidemment, ce qu'on regarde, c'est tout ce qui est dit dépenses non essentielles, la consommation courante. On avait eu le même message hier de Sears. Vous vous souvenez que la valeur avait terminé en baisse aussi. Et donc, c'est un message, évidemment, surtout si on regarde les chiffres de Walmart la semaine passée, qui, eux, sont plutôt dans les dépenses dites essentiel et qui la société avait publié des chiffres au-dessus des attentes. Ce qui est très intéressant de regarder, c'est que pour revenir à Target, la marge brute s'est améliorée pour le 5e trimestre consécutif parce que la société continue à faire des réductions de coûts et en face, aussi des démarches promotionnelles, pardon. Et donc, on voit que pour l'instant, ça ne suffit pas. Et il y a des craintes sur les dépenses des consommateurs américains. C'est tout à fait nouveau hein, sur ce premier trimestre.
Ce titre Target, donc, qu'il ne faut pas rater aujourd'hui, est en repli assez net, effectivement, de 9%. Wall Street qui a ouvert, donc, il y a quelques minutes. Et les indicateurs clés du jour. On a eu notamment tout à l'heure le chiffre des demandes de prêts hypothécaires aux États-Unis. Quels enseignements est-ce que vous en tirez, John ?
Ben écoutez, ils ont augmenté de 1,9% par rapport à la semaine précédente. C'est intéressant de le noter parce que c'est la troisième semaine de hausse consécutive. Alors, il faut voir que cette hausse est totalement cohérente avec la baisse des taux hypothécaires moyens, puisque vous savez que les Américains, on en parle chaque semaine, eh bien, empruntent à 30 ans. Ben on a vu que les emprunts hypothécaires sont au plus bas niveau depuis cette semaine. Et puis en face, on a aussi une autre statistique sur l'immobilier où on a les demandes de refinancement de prêts hypothécaires qui ont fait un bond de 7% la semaine passée. Donc on voit du côté de l'immobilier américain que ça va de mieux en mieux.
Effectivement. Puis on parle aussi pétrole, la question des réserves stratégiques américaines. Cette question pétrole, la gestion des réserves, elle est au cœur des débats aujourd'hui aux États-Unis.
Oui, alors que le WTI s'échange en ce moment à 77$, une surprise hein, du côté du gouvernement américain qui a annoncé qu'il allait mettre en vente ses réserves, 1 million de barils. Pourquoi une telle décision, John ? J'imagine que vous allez nous parler de la driving season qui va arriver.
Ben écoutez, Aude, vous m'arrachez les mots de la bouche, évidemment, la driving season, qu'est-ce que c'est ? C'est le moment où les Américains prennent le volant de plus en plus et ça correspond au Memorial Day. Le Memorial Day, c'est lundi prochain, donc c'est un grand week-end de 3 jours pour les Américains. Et bien évidemment, c'est une question politique. L'administration Biden veut que le prix à la pompe, les prix du gallon, comme on dit aux États-Unis, baissent. Ils l'ont fait. Il faut rappeler que ils ont libéré non pas les réserves stratégiques, mais les réserves qui avaient été mises en place en 2014 après la tempête Sandy, où vous aviez eu de nombreux automobilistes qui n'avaient pas pu trouver de carburant. Alors se pose bien évidemment la question de savoir s'il y a une autre catastrophe qui devait arriver dans les semaines ou dans les mois qui suivent, eh bien qu'est-ce qu'ils vont faire parce qu'ils n'ont plus de réserves qui peuvent libérer immédiatement. Donc ici, des questions économiques et des questions politiques de l'autre côté.
Le débat bat effectivement son plein. Wall Street a ouvert il y a quelques instants. On est en toute petite baisse sur les 3 indices américains avant ce soir. Celui qui donnera le la, Nvidia, annoncera ses résultats. On en parlera bien sûr tout au long de BFM Bourse. Mais d'abord, un petit coup d'œil aussi à la politique américaine à 168 jours maintenant du scrutin. Ce point quotidien sur la campagne électorale américaine, depuis le début janvier d'ailleurs, on est ensemble pour ce point quotidien effectivement sur la campagne. Toutes les chaînes en France ne proposent pas ce point quotidien. C'est ici que ça se passe, sur BFM Business et dans BFM Bourse. Alors John, Donald Trump a choisi de ne pas témoigner à son procès à New York. La question qu'on peut se poser, c'est de savoir si dans ces périodes de campagne électorale, si de la part de Donald Trump, c'est une bonne ou une mauvaise décision.
Ben, c'est une bonne question. D'abord, pourquoi est-ce qu'on parle de son procès ? Parce qu'on sait que s'il devait être condamné, eh bien, ça pourrait entamer ses chances d'être le prochain président américain. Ben, tenez-vous, dans le procès qu'il a contre, pour se défendre face au paiement apparemment illicite d'une actrice pour film adulte, eh bien, Donald Trump ne va pas témoigner et, tenez-vous bien, la défense, donc les avocats de Donald Trump n'ont fait témoigner que deux personnes, tout d'abord un assistant juridique et un avocat d'un avocat. C'est pour vous dire qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes à la barre pour Trump. Pourquoi ? Parce que les accusations, les accusateurs, notamment l'ancien avocat de Trump, de Cohen, eh bien, apparemment, sur ce que disent tous les journaux, que ce soit républicains ou démocrates, eh bien, c'est un peu emmêlé les pinceaux en déclarant et en affirmant qu'il avait même, je le cite, volé dans la caisse de la Trump Administration. Donc, pour ne prendre aucun risque, eh bien, les avocats de Donald Trump ont décidé de ne pas le faire témoigner et apparemment, on se dirige vers une non-condamnation, une victoire d'une certaine manière pour Donald Trump dans ce procès-là, mais il faut répéter, qu'il y en a aussi d'autres un peu partout aux États-Unis.
John Plassard, c'est USA Today depuis au bureau de Mirabeau chaque après-midi. Merci John de nous avoir accompagnés. Rendez-vous demain pour de nouvelles aventures. Aude nous accompagne bien sûr aussi depuis la Tour Euronext. On vous retrouve dans un instant. Alors qu'à Wall Street, on est en petit repli. Rien de méchant. -0,1% sur le S&P. Le CAC 40, lui, perd 0,5%. On est en danger quand même les 8100 points en ce moment sur le marché parisien. Si vous avez des questions sur vos portefeuilles boursiers, ces questions, n'hésitez pas bien sûr à nous les envoyer. Culture Bourse dans quelques minutes. Julie Cohen-Horton et ses experts vous répondront en direct. Vous pouvez nous adresser vos questions par mail à l'adresse bfmbourse@bfmbusiness.fr ou en flashant, en scannant le QR code, si vous suivez la télévision, qui apparaîtra sur vos écrans tout au long de l'après-midi. 15h40, c'est la Bourse Cash. David Krupp nous rejoint aujourd'hui pour la Financière de l'Échiquier. Bonjour David.
Bonjour Guillaume.
Bienvenue. Vous avez exceptionnellement choisi aujourd'hui, David, de parler vrai. Vous êtes sûr ?
Je suis sûr.
Pour vous, même les plus grands stratèges américains succombent à l'effet FOMO. Presque tous les stratèges ont donc désormais peur de rater la hausse des marchés. Ce constat, il est cru, mais réel.
Il est réel.
L'effet FOMO. Donc, effectivement, la peur de rater la hausse des marchés. Là, la musique peut s'arrêter. C'est ça, exactement. La peur de rater la hausse des marchés. Pourquoi ? Enfin, non, mais attendez. Les marchés, ils ont déjà bien monté, on est sur des records, et vous venez nous dire que même les plus pessimistes désormais, des stratèges américains, deviennent optimistes, alors que le marché est déjà sur un plus haut. C'est l'effet FOMO, c'est ça l'effet FOMO, c'est la peur de rater le train.
C'est exactement ça, Guillaume. On a eu 25 records cette année sur le S&P, peut-être 24 ou 26, mais les grands stratégistes se rallient, sans mauvais jeu de mots, à la hausse des marchés. Et c'est vrai qu'on a... Il y a des arguments derrière. C'est pas vide de sens. Et il y a des arguments encore pour cette année pour pousser. On était assez étonnés de voir notamment l'emblématique Mike Wilson de Morgan Stanley qui a été si pessimiste, et je suis venu souvent porter sa parole ici, et là il a complètement switché son objectif de cours. Il faut savoir que l'objectif de cours sur le marché maintenant américain en moyenne est à 5400, tandis qu'il y a moins d'un mois il était à 5200. Donc les objectifs sont tirés à la hausse, et par ceux qui ont été pessimistes, comme Mike Wilson qui est passé de 4500 à 5400, donc 20% d'augmentation. Il s'est levé de bonne humeur et il a poussé son objectif à la hausse. Et il y a des optimistes qui remontent leur objectif, notamment celui de BMO, Brian Belsky, qui est passé de 5100 à 5500. Mais il a toujours été optimiste, mais comme les objectifs sont dépassés, Guillaume, il faut bien faire quelque chose. Pareil pour Deutsche Bank, qui est passé de 5100 à 5500. Et puis, on a les optimistes qui sont toujours là, comme UBS, qui nous dit « Moi, je suis très confiant sur l'inflation. Le print de janvier sera à 0,2. Je suis très confiant sur la résilience du consommateur américain, avec plein d'arguments là-dessus. Je suis très confiant sur l'intelligence artificielle. Vous inquiétez pas, ça va pas durer. Mais donc, la productivité va s'améliorer. Et le dernier point, c'est le positionnement qu'il dit être clean, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de surachat. Et donc, clairement, tous ces changements de vision ou ces visions qui sont poussées à la hausse, qui sont un peu exacerbées, eh ben, sont avec des objectifs très forts. Donc, il ne nous reste plus que JP Morgan, qui a ce fameux objectif de 4200, donc très très bas, ah oui, et qui lui trouve que les taux sont très restrictifs et que la valorisation du marché est trop élevée.
C'est incroyable, donc les plus pessimistes des stratèges américains, ouais, finalement sont obligés de s'aligner. De toute façon, que faire face au marché ? Le marché a toujours raison, et donc fixe de nouveaux objectifs beaucoup plus optimistes qu'auparavant. Est-ce que ça signifie qu'aujourd'hui, il est en bourse interdit d'être pessimiste, David ?
Non, mais ce qui est très intéressant, Guillaume, c'est qu'il faut se rappeler que ces grands stratégistes, ils parlent aux plus grands clients dans le monde. Donc, il n'y a pas de raison aussi que vos auditeurs n'entendent pas cette voix. Ces grands stratégistes parlent aux grands clients américains, que sont T. Rowe Price, Artisan, Fidelity et autres. Donc, la résonance, elle est là. C'est des clients qui gèrent des centaines de milliards de dollars et qui reçoivent ce sentiment de la part des stratégistes. Donc, je ne sais pas s'il est inopportun d'être bearish maintenant, mais en tout cas, les grandes voix du monde qui parlent aux grands clients du monde leur disent ça. Et ça, c'est vraiment intéressant.
Mais parfois, on lit, c'est Warren Buffett lui-même qui le dit, qu'il faut savoir aller à contre-courant du consensus, et on a un consensus vraiment de plus en plus largement optimiste, quoi. Même les pessimistes deviennent optimistes sur le marché. Est-ce que du coup, c'est le moment de s'enfuir ?
Oui, mais d'un autre côté, on a un marché qui est très momentum depuis maintenant un certain temps, et ceux qui ont voulu être négatifs, je crois qu'il y a 5 années sur 6 où les marchés progressent et montent. Ah oui. Donc, il faut trouver l'année où ça se passera pas, et quelque chose me dit que ce sera pas encore cette année où ça se passera.
Ce sera quoi les moteurs de la poursuite à la hausse sur sur les marchés d'après vous?
Ah, ça c'est la vraie bonne question, Guillaume. Merci de la poser. Bah, je pense que
d'abord, vous devriez venir plus souvent. Vous manquez souvent.
Bah, quand vous voulez. Moi, je reste là 2 heures si vous voulez, hein, et tous les jours. Non, bah, je pense que d'abord le Goldilocks scénario. On a eu la Suisse, la Suède qui a baissé ses taux. Guillaume, on va avoir bien sûr la BCE en juin. On aura la BOE. Peut-être, on peut en parler d'ailleurs, puisqu'il y a un chiffre du CPI négatif, la BOE en juillet, il y aura la Fed derrière. Donc la première chose, c'est que les baisses de taux, elles sont devant nous. Et ça, c'est quand même un argument qui est très sérieux et très fort. La deuxième chose qui est assez intéressante, on ne parle plus beaucoup de concentration, mais ce qui est intéressant, c'est que ce point-là, c'est un côté négatif qui s'est un peu envolé. 72% des sociétés du S&P traitent au-dessus de leur moyenne mobile 200. Ça veut dire quand même que le marché ne monte plus qu'avec 5-6 valeurs, avec les Mag 7. Il monte avec un ensemble de valeurs beaucoup plus large. Et ça, c'est aussi très positif pour la continuité de la hausse du marché. Après, on a vu qu'il y a toujours un appétit. Je vous donne juste un chiffre, Guillaume. Il y a eu 12 milliards la semaine dernière d'ABB de mise sur le marché. Donc, les mises sur le marché, voilà, du secondaire qui revient, où on a des actionnaires qui revendent des quantités importantes. Et bien, non seulement ça s'est très bien passé, mais le return, donc le retour à ceux qui sont venus acheter ces titres, est de 2% en une semaine. C'est-à-dire que non seulement il y a de l'appétit, mais les ABB et le retour sur le marché se passent bien. Et puis, dernière chose aussi très importante, c'est la croissance des EPS. On a eu 90% des sociétés
des
en
bénéfices
Europe,
sur action,
des bénéfices par action, merci, qui ont publié. On finit un trimestre à moins 5, mais on attendait moins 13. Et maintenant, sur l'ensemble de l'année en Europe, on est plutôt à des publications qui devraient être en croissance de 6 à 8%,
oui, oui.
Tandis que le consensus est à 3,7. Dernière chose, les flux, mais là, je peux vous en parler encore.
Parce que les flux reviennent sur les actions,
c'est ça ? Oui, les flux reviennent. Il y a 8 trillions sur le marché monétaire. On en a souvent parlé ensemble. Si les taux baissent, ça sera un argument supplémentaire à la hausse des marchés. Mmh. Et vous savez, le retail, c'est 36% du S&P. Il y a 57 trillions, ça veut dire qu'ils détiennent 21 trillions du marché. Et rien qu'entre octobre et maintenant, et je finis là-dessus, il y a eu 1,2 trillions supplémentaires de richesse qui est venu dans les particuliers américains.
Donc, il faut aussi vous rendre justice, David, parce que vous nous parlez de ces grands stratèges américains d'habitude très pessimistes qui deviennent désormais optimistes. Vous l'êtes depuis des mois et des trimestres optimistes, ouais, hein, sur le potentiel des marchés. Voilà. Bah, c'est pour ça que moi je me méfie. Tout le monde est optimiste, souvent. Là c'est peut-être le moment de prendre... Bon, enfin, je sais pas, on posera cette question encore à d'autres intervenants, bien sûr, BFM Bourg jusqu'à 18h. Vous restez avec nous, David. Aude nous appelle et nous attend d'ailleurs depuis la tour Euronext. Aude, pour le suivi de cette séance, justement. Alors aujourd'hui, c'est une séance de consolidation et de prise de bénéfices en Europe.
Ah ouais, vous parlez d'optimisme. Aujourd'hui, on est un petit peu moins sur le marché parce qu'effectivement, il y a eu ce chiffre ce matin du côté de Londres, cette inflation britannique, alors qui est bien descendue quand même. Si on regarde le mois de mars par rapport au mois d'avril sur un an, on est passé de 3,2 à 2,3% donc d'inflation en avril sur un an. Le marché, lui, attendait 2,1%, donc il attendait encore moins. Mais c'est aussi du côté de l'inflation core, hein, l'inflation sous-jacente britannique, qui finalement la redescend un petit peu plus doucement. On est toujours à 3,9% d'inflation sous-jacente de l'autre côté de la Manche. Donc c'est donc là se situe la déception. Et vous vous souvenez, il y a un peu plus de 10 jours, c'est sur justement la réunion de la Banque d'Angleterre qu'on avait atteint de nouveaux records à Paris et puis d'ailleurs partout en Europe. Et bien là, finalement, ça remet en cause quand même l'anticipation d'une baisse de taux qui était quand même optimiste, en tout cas pour le mois de juin. Et c'est pour ça que donc les marchés baissent moins 0,5% à Paris, moins 0,6% à Londres et moins 0,1% à Francfort.
Et Aude, vous nous rappelez dès que vous le souhaitez, priorité à la séance et variation du jour sur les marchés. Un secteur souffre, secteur automobile. David, il faut qu'on vous interroge là-dessus quand même. Ce communiqué de la Chambre de commerce chinoise au sein de l'Union européenne, un communiqué qui laisse planer quand même l'idée d'une hausse des taxes à l'import en Chine sur les voitures européennes puissantes, peut-être les voitures allemandes notamment d'ailleurs. Le secteur auto est entraîné à la baisse, on voit le luxe aussi reculer aujourd'hui. Toujours la question des taxes douanières manifestement sur le grill là.
Alors sur le luxe, il y a eu aussi des propos de Chanel qui étaient un petit peu, qui n'est pas coté en bourse bien sûr, mais qui ont été un peu pessimistes et négatifs sur la poursuite de la croissance. Et évidemment, comme les valorisations ne sont pas si élevées que ça, mais ça donnait en tout cas un témoignage un peu plus pessimiste sur le luxe. Mais pour revenir à votre question...
Ça n'arrive pas tous les jours, mais Hermès et Lanterne Rouge du CAC aujourd'hui, voilà, moins 4%.
Ouais. Et je crois vraiment que c'est les propos de Chanel pour ce fait-là. Après, vraiment, réellement, oui, ça témoigne en tout cas d'un risque géopolitique, de protectionnisme des pays. Donc ça pourrait être un frein la croissance, Guillaume. C'est, il faut le voir plus globalement que même sur un secteur même, parce que je pense qu'on peut, tous les secteurs peuvent être touchés. On a parlé récemment du cognac, des boissons, de l'automobile, des semi-conducteurs. Tout peut arriver, peut être dans ce, dans cette nasse de problématiques liées à ce protectionnisme. Mais le problème du gouvernement chinois, c'est qu'ils ont fait une grave erreur, parce qu'ils ont fixé une croissance à 5%, donc ils vont être obligés de l'avoir. Donc d'avoir une guerre commerciale entre la Chine, l'Europe et les US, ça ne va pas leur faciliter la tâche de pouvoir arriver à ces 5% de croissance.
Ils mettent les chiffres qu'ils veulent sur leur croissance officielle.
Ils mettent les chiffres qu'ils veulent, mais il faut qu'ils y arrivent quand même. Ouais. Donc c'est vrai que c'est difficile. Puis on a ces élections en ligne de mire, Guillaume, qui font que Biden propose une série d'augmentations, là où Trump propose une escalade. Donc on sait que ça va être des propos qui vont revenir souvent. C'est pas nouveau, mais ça va revenir. Et la plus grande problématique, c'est que ça peut augurer d'une croissance un peu plus faible. Et ça, c'est pas tout à fait ce qu'on veut quand même. On veut une croissance quand même qui reste soutenue avec une inflation qui décélère. Il faut pas qu'on arrive dans une problématique de hard landing, bien entendu.
Les marchés, donc, qui aujourd'hui sont en petite consolidation avant ce soir, l'heure de vérité. Pour l'intelligence artificielle, 22h20, la publication d'NVIDIA. C'est aussi l'objet de notre question du jour. Vous n'allez pas y échapper à la question du jour sur NVIDIA. Cette question qu'on vous pose, vous tous aussi, sur nos réseaux sociaux, notre fil XBFM Bourse notamment et notre fil LinkedIn. Ce soir, NVIDIA va publier, à vos yeux, après cette publication, le titre va-t-il à nouveau s'envoler, désormais piétiner, ou pourquoi pas chuter ? Telles sont les trois options qu'on vous propose. Alors, on n'est pas Madame Soleil, on est bien d'accord. Mais comment est-ce que, à titre personnel, David, vous vous préparez à cette publication ? Est-ce que vous imaginez un nouvel effet blast sur les marchés mondiaux ?
Alors, écoutez, c'est très difficile, vous avez raison de dire que de prévoir la publication d'NVIDIA, il y a pas mal de petites choses. Moi, mon sentiment, c'est que si ça baisse, parce qu'on anticipe que ce soit une variation de plus ou moins 9% sur NVIDIA par rapport aux résultats que ça pourrait avoir. Donc, la variation va être très forte. Quoi qu'il en soit, si le titre baisse de 9, moi, j'hésiterai pas à buy the dip, ce fameux, à racheter le titre. Si le titre venait à casser, je serais content d'en avoir. C'est ce qu'on a en portefeuille. Je crois qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui en ont. Donc, je pense qu'il faut se laisser porter si le titre monte. Par contre, s'il y avait des résultats qui étaient un peu inférieurs pour plein de raisons, et on peut en parler, bien sûr, mais j'hésiterai pas à racheter la baisse du titre.
Oui, c'est votre chouchou dans l'intelligence artificielle, enfin voilà, Nvidia, même c'est si pas... on a peut-être les $1000 d'ailleurs en ligne de mire, hein, sur le titre Nvidia désormais. Bon,
alors c'est
cher, c'est cher, c'est peut-être pas la plus chère. Enfin, comment est-ce que vous regardez ?
Qui aurait eu envie de vendre Intel dans les années 80, hein, Guillaume ? Donc c'est exactement la même question qui se pose aujourd'hui. Aujourd'hui, personne n'a envie de vendre Nvidia. C'est vraiment le moteur de croissance de l'intelligence artificielle. C'est un modèle unique, c'est des espoirs qui sont très forts. Maintenant, oui, il y a d'autres choses qu'on peut jouer, puisque ceux qui fabriquent les puces d'NVIDIA, c'était SMC, et ceux qui fabriquent les machines qui de TSMC, c'est ASML. Donc vous pouvez jouer et TSMC et ASML pour jouer en plus NVIDIA, mais je crois que dans les trois, il faut les garder précieusement.
Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Si David Krug vous a convaincu, prévenez vos amis, ils pourront le retrouver en replay et podcast sur notre application BFM Business dans à peine quelques minutes. C'était la Bourse Cash. Merci beaucoup, David.
Merci beaucoup, Guillaume.
De nous avoir accompagnés cet après-midi, et donc le CAC 40 qui recule à nouveau plus que Wall Street. Décidément, c'est la mauvaise habitude du moment. En Europe, on recule plus qu'à Wall Street. On sous-performe, on perd 0,5% à Paris. On passe sous les 8100, 8099 points en ce moment.
BFM Bourse, Culture Bourse.
Parce qu'investir en bourse, ça se cultive. Culture Bourse. Vos questions sur vos investissements trouvent ici leurs réponses. Julie Cohenerton et ses experts. Bonjour Julie.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Parce que oui, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écrire pour avoir des réponses sur vos portefeuilles d'investissement. Et vous le savez désormais, eh bien vous nous écrivez à l'adresse bfmbourse@bfmbusiness.fr ou bien au QR code qui s'affiche si vous nous regardez à la télévision.
Et aujourd'hui Julie, une question sur l'impact des augmentations de capital sur les investisseurs et les actionnaires.
Et c'est Claude qui nous a écrit, il veut savoir si une augmentation de capital est véritablement synonyme de la dilution d'un titre. Et il précise que ce n'est visiblement pas le cas d'Alstom. Il se demande comment on peut encore faire confiance au pragmatisme des marchés. Certains sont privilégiés, d'autres mal aimés, voire maltraités. Voilà ce qu'il dit. Mais il y a un expert en qui on peut avoir confiance pour nous répondre. Et cet expert, eh bien, c'est Thibaut François pour Fastea Capital. Bonjour Thibaut.
Bonjour Julie.
Alors Thibaut, qu'est-ce que vous répondez à Claude sur ce lien de cause à effet ? Est-ce que selon vous, il est systématique ?
Écoutez, tout dépend en fait de l'augmentation de capital et pourquoi l'augmentation de capital doit être réalisée par l'entreprise. Si c'est une augmentation capitale qui est défensive, alors c'est souvent le cas ces derniers temps pour les entreprises, on va dire françaises. Ça veut dire que pourquoi ils font cette augmentation, c'est qu'en fait il y a plus de croissance dans la boîte, ou alors les cash flows sont faibles, ou alors il y a des endettements qui sont importants et qui n'arrivent pas à rembourser. Et donc effectivement la société émet des titres, donc fait une augmentation de capital qui est jugée défensive. Et effectivement dans ce cas-là, bah c'est plutôt dilutif pour l'actionnaire, parce qu'on crée des titres, on ne crée pas de valeur ajoutée, et effectivement, il y a plus d'actionnaires dans la société, plus de titres, et donc c'est forcément une dilution pour les actionnaires qui étaient existants auparavant. Par contre, il y a une deuxième augmentation de capital qui est possible. Celle-ci, elle est offensive. C'est quand la société a des projets de développement qu'elle ne peut pas financer avec des fonds propres, par exemple pour faire une grosse acquisition, une grosse croissance externe, avec un impact qui peut être bien positif avec de la valeur ajoutée pour l'actionnaire. Là, on fait une augmentation de capital avec une création de titres, mais la valeur ajoutée est supérieure à cette création de titres. Et donc là, l'opération est relutive pour les actionnaires. Donc, les deux sont possibles aujourd'hui sur une augmentation de capital.
Mais alors, du coup, Thibault, est-ce que vous pensez qu'on peut quand même faire confiance au pragmatisme des marchés ?
Alors, le pragmatisme des marchés, c'est une vaste théorie. On parle aussi d'efficience des marchés. Est-ce que les marchés sont efficients ? Est-ce qu'ils sont pragmatiques ? Alors, sur le long terme, j'ai toujours envie d'y penser, de croire que c'est possible. Oui, les marchés sont pragmatiques. On est dans une certaine rationalité, dans une certaine efficacité du marché. Donc, à long terme, je pense que c'est tout à fait possible. Alors, maintenant, dans le cas d'Alstom, avec l'augmentation de capital qui est en cours, le gros problème, et c'est là où les marchés sont particulièrement pragmatiques, on attend une augmentation de capital parce que aujourd'hui, Alstom a des difficultés financières. Aujourd'hui, tout ne changera pas demain chez Alstom, notamment les dirigeants qui ont mis en place la stratégie ont du mal et n'arrivent pas à bénéficier de la croissance et de la confiance du marché. Donc, pour moi, ils sont pragmatiques. Ils n'achètent pas aujourd'hui Alstom parce qu'aujourd'hui, il manque encore des choses pour pouvoir créer de la valeur ajoutée pour l'actionnaire à long terme.
Thibault François, ça vous dit de rester avec nous en fil rouge, Thibault ?
Avec grand plaisir, Guillaume.
Eh ben, plaisir partagé pour aller, pourquoi pas, naviguer ensemble au cœur de cette séance, rebondir ensemble sur ces valeurs qui font la séance du jour. Rendez-vous dans un instant, Thibault. Vous restez bien en ligne. On vous recontacte donc dans un instant pour effectivement continuer d'éclairer nos auditeurs et téléspectateurs. Parce que Culture Bourse, bien sûr, ce sont des réponses à vos questions, mais on va plus loin. On pousse les feux encore un peu plus, Julie, avec une pédagogie financière toujours au rendez-vous chaque jour à 15h50.
Exactement, Guillaume. Et alors, si vous êtes investisseur, peut-être que vous êtes déjà demandé ce qu'est une vente à découvert ou VAD. Alors, en quoi consiste cette opération financière ? Est-ce qu'elle n'est pas trop risquée ? Eh bien, on va voir ça aujourd'hui avec notre pédagogue du jour. Et c'est Antoine Fraisse-Soulier, le responsable de l'analyse des marchés chez Itoro. Bonjour Antoine, merci d'être avec nous.
Bonjour.
Alors Antoine, on va reprendre les bases. On est dans le Culture Bourse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer simplement, concrètement, efficacement, ce qu'est une vente à découvert ?
Alors oui, alors la vente à découvert, qui se dit aussi short selling en anglais, donc quand on est short, ça consiste à vendre un actif donc sans le posséder. Donc vous me direz comment on peut faire ? Eh bien, c'est une institution financière qui va vous prêter les titres. Vous allez les vendre et ensuite vous allez attendre que le titre baisse pour les racheter. Voilà, donc ça permet en fait de jouer la baisse sur un actif.
Alors ça c'est pour la définition, mais alors du coup c'est quand même très spéculatif. C'est quoi l'intérêt pour un investisseur d'opter pour une telle approche ? En gros, c'est quoi les avantages et les inconvénients ?
Alors l'avantage premier, c'est que vous pouvez gagner de l'argent même si un titre baisse. Ça c'est vraiment l'avantage premier, c'est que lorsque vous shortez, hein, comme on dit dans le jargon, donc vous estimez par exemple qu'un titre est trop surélevé par exemple, et vous le shortez, vous attendez qu'une baisse arrive et ensuite vous le rachetez plus bas, donc vous matérialisez un gain. Vous pouvez aussi vous couvrir avec des shorts, hein, lorsque vous pensez que les marchés vont baisser, vous pouvez vendre des futurs, shorter des titres pour vous couvrir. Donc ça c'est les avantages principaux. Ensuite les inconvénients, c'est que le risque de perte est illimité, parce que si ça va pas dans votre sens, hein, donc vous prenez l'exemple de vendez le titre, si l'action continue de monter, elle peut monter indéfiniment, et là vous devez racheter le titre plus haut et donc vous matérialisez une perte. Donc c'est le risque principal, c'est justement la perte illimitée. Et donc petite anecdote aussi, c'est par exemple George Soros, c'est le plus gros gain en short lorsqu'il avait shorté en 92 la livre sterling, il avait matérialisé un gain d'un milliard de livres. Enfin, il y a plein d'histoires de shorts qui se sont très bien passées.
D'accord, bon, un peu audacieux, mais en tout cas, ça peut être rentable. Merci beaucoup, Antoine. Antoine Fraisse-Soulier pour eToro de nous avoir accompagnés. Et on vous retrouve très prochainement pour un nouveau Culture Bourse.
Culture Bourse, 15h50 chaque jour. Julie Cohen-Horton et ses experts. À demain, Julie, pour de nouvelles aventures. Salut Antoine, bon retour. Merci de nous avoir accompagnés également. Le CAC 40, donc en repli cet après-midi. Les valeurs à ne pas rater, le luxe notamment sous pression après la publication des perspectives annoncées par Chanel, Hermès et LVMH. C'est pas tous les jours que ça arrive, ce sont les deux plus forts replis du CAC. On s'en reparle dans un instant, juste après la pause. Vous pouvez aussi suivre nos articles sur notre site BFM Bourse et notamment cet article consacré à Schneider Electric, une des belles hausses du jour à Paris, plus 1%. Le marché qui accueille avec philosophie, voire positivement, l'abandon par Schneider Electric du rachat de Bentley Systems. Toutes les explications donc dans cet article. A tout de suite.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.